Radio Kapi.
Une accalmie s'observe à Beni depuis plus d'un mois, assure le commandant du secteur opérationnel Sokola 1, le général de brigade Bertin Poutela l'a fait savoir à l'issue de sa rencontre avec le secrétaire général adjoint de l'ONU Jean-Pierre Lacroix, ce dernier est en mission officielle dans le Nord Kivu. Clôture hier à Kinshasa des travaux des États généraux de la lutte contre la corruption. Ces assises ont mis en évidence ce qui empêche la RDC d'éradiquer la corruption et plus de 160 recommandations ont été adoptées afin d'identifier, détecter et réprimer les actes de corruption en RDC. 50 millions d'euros, c'est la valeur du projet de développement exécuté conjointement par le PAM, la FAO et l'UNICEF à Minova dans le sud Kivu. C'est pour lutter contre la malnutrition et renforcer la résilience des organisations paysannes. Pour en parler, nous recevons Salif Djiré, chef de la FAO au sud Kivu. Madame, messieurs, bonjour. Nous avons la calmie ici à Beni. On était agités, maintenant c'est calme dans le centre-ville de Beni. Déclaration du commandant du secteur opérationnel Sokola 1 après sa rencontre avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. Jean-Pierre Lacroix est en mission officielle dans le Nord Kivu. Le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 nous parle ici du menu de sa rencontre avec le diplomate onusien, le général de brigade Bertin Poutela, est au micro de Marc Marofimbo.
On a parlé surtout les problèmes de la sécurité, de la sécurité et les opérations surtout et au niveau de mon secteur de Sokola 1 Grand Nord. Et vous avez la calmie, vous voyez la calmie ici à Beni. On était agité maintenant, ça a pris un mois ici dans la ville. Dans les centres de Beni, de ville de Beni, il y a vraiment un peu de calme.
Qu'est-ce que vous lui avez dit et qu'est-ce que vous avez demandé concrètement à la MONUSCO?
Qu'on travaille ensemble, qu'on soit toujours ensemble avec eux et puis qu'on essaie un peu d'accélérer la collaboration avec eux, surtout du côté renseignement, tout ça. Puisqu'ils ont aussi des appareils, des drones pour nous aider. Nous aussi, nous avons des drones, mais il faut toujours travailler ensemble pour avoir des résultats concrets. Puisque les rebelles s'appellent aux civils. Là où il n'y a pas de militaires. On nous a frappé hier, moi j'étais sur le terrain. On nous a frappé, mais en fouillant, ils ont commencé à danger la population. Puisque là, il n'y avait pas de militaires. Le Congo est grand. Pour mettre chaque militaire, une section par village, c'est très difficile. J'ai initié un système de patrouille de combat, donc entre les unités. Puis ça peut diminuer les tueries de la population.
Notez que peu avant cette rencontre, la situation sécuritaire marquée par les violences et massacres des civils dans la région de Beni était au centre des échanges toujours hier à Butembo entre le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations et l'évêque du diocèse de Beni-Butembo. Jean-Pierre Lacroix est allé s'enquérir de la situation en vue de renforcer les mécanismes d'appui et de réfléchir ensemble, dit-il, sur la mutualisation des efforts pour la restauration de la paix dans cette région, a-t-il déclaré. Province du Maniema, affaire meurtre des deux motards jeudi dernier à Salamabila par des militaires, un magistrat désigné par l'auditeur supérieur militaire de garnison de Kindu séjourne à Salamabila pour réunir les éléments pouvant permettre l'organisation du procès de ces deux militaires. La société civile locale s'est dit satisfaite du fait que ces bourreaux seront jugés publiquement pour servir d'exemple aux autres. Saïdi Vumba, président de la société civile de Salamabila, l'a dit au téléphone de Florent Kizalunga.
Au regard des alertes que nous avons montées au créneau, on a demandé au gouvernement provincial de pouvoir assurer le déplacement des tribunaux militaires de garnison à Salamabila pour organiser un procès de flagrance. Je vous signale déjà qu'il y a la présence des tribunaux militaires de garnison en auditorat. Ils sont déjà à Salamabila pour cette fin. Et à 2 ou 3 petits matins, le procès sera déjà organisé, il va commencer et vous serez toujours au courant de ce qui va se passer. Tout cela, c'est pour décourager, inquiéter les meurtriers et ceux qui ont tendance de pouvoir continuer à donner la mort aux gens comme ça sans cause. S'agissant de l'attente de la communauté sur l'organisation du procès de flagrance à Salamabila, d'ailleurs c'est ce qui a été notre souhait parce qu'on a demandé ça maintes fois. On demandait que le gouvernement assure le transport du déplacement des magistrats pour que la justice soit rendue en public aux vies aussi de tout le monde. Et ça doit aussi éduquer les autres militaires qui peuvent désormais décider de ne pas donner la mort aux gens, aux paisibles citoyens comme ça.
Je vous le disais en titre, clôture hier à Kinshasa des travaux des États généraux de la lutte contre la corruption. Aucun écart d'ordre professionnel ne sera toléré. La sanction doit être restaurée, a déclaré le vice-premier ministre en charge de la fonction publique et modernisation des services publics. Jean-Pierre Liaou s'est adressé aux magistrats dont il a promis l'amélioration des conditions salariales. Plus de 160 recommandations ont été adoptées afin d'identifier, détecter et réprimer les actes de corruption en RDC. Jeff Ngoy nous en parle.
Les États généraux ont mis en évidence les causes qui ne permettent pas à la RDC d'éradiquer la corruption et ils ont dégagé des pistes de solutions qui trouveront un accompagnement sans faille du président de la République selon Jean-Pierre Liaou. S'agissant de la prévention par exemple, ils ont recommandé au chef de l'État de recevoir le serment des magistrats de la Cour des comptes nommés depuis 2018. Au Parlement, il est demandé d'actualiser le cadre légal anticorruption pour le conformer aux instruments juridiques régionaux et internationaux auxquels la RDC a adhéré. Il s'agit de la loi portant création d'une agence nationale anticorruption, la loi portant les lanceurs d'alerte, celle relative à l'accès à l'information. Modifier également le code pénal afin de renforcer la répression et d'introduire des procédures spéciales en matière d'enquête et de poursuite. À la Cellule nationale de renseignement financier et à la Banque centrale, il est recommandé de renforcer les mécanismes de limitation et de l'utilisation manuelle de la masse monétaire dans les transactions. À la presse, de renforcer les capacités des journalistes d'investigation sur la problématique de la corruption en RDC.
Le président du Sénat préconise la création d'une banque pour financer les initiatives des femmes. Modeste Bahati a fait ce plaidoyer hier lors de son intervention aux rencontres spéciales femmes entrepreneurs dénommées Level Up, rencontre organisée durant 2 jours à Kinshasa par le réseau d'affaires Makutano. Le président du Sénat s'exprime à ce sujet au micro de Jean-Marc Matwaki Mofelele.
Vous savez, Makutano, c'est la rencontre de tous les entrepreneurs féminins. Et donc, pour nous, c'est non seulement un encouragement, mais aussi nous saluons la montée en flèche de Makutano. D'année en année, en tout cas, Makutano prend de l'ampleur. Et maintenant, c'est devenu une grande organisation et une grande rencontre de tous les entrepreneurs féminins. Vous avez vu, lorsque nous visitions les stands, toutes les créations, toutes les belles œuvres réalisées par les femmes. Et moi, j'ai proposé que prochainement, il faut penser même à ce qu'il y ait une banque uniquement pour financer les initiatives féminines. Je crois que c'est important. Ça permettra à ce qu'on puisse briser cet écart qui existe entre les hommes et les femmes en termes de business. Vous savez que cet écart se justifie rien que par l'histoire, la mentalité. Il faut donc briser cela parce que beaucoup d'hommes ne voulaient pas que les femmes puissent s'engager dans les affaires, que les femmes puissent travailler au bureau. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, ça c'est du passé. Nous devons maintenant encourager toutes les initiatives féminines.
Sachez que cette première édition de Level Up, axée sur l'entrepreneuriat féminin, a réuni des entrepreneurs jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, tous secteurs d'activité, avec comme pays invité d'honneur le Sénégal. Il faut souligner que la première édition de Level Up, organisée en ce mois d'octobre, s'inscrit en soutien à la lutte contre le cancer de sein. Une partie des bénéfices de l'activité sera en outre reversée pour la prise en charge de la numérisation d'un établissement scolaire par l'entreprise Fine Solution Technology à travers son projet Shul System. Après la signature de l'ordonnance désignant les animateurs de la centrale électorale, le go est donné par le président de la République pour les élections de 2023. C'est dans ce cadre que l'UDPS Fédération du Kassai appelle à la mobilisation pour remporter ces échéances. Roms Ngwapichi, porte-parole de cette fédération, l'a déclaré hier à Kinshasa au cours d'un point de presse. Par ailleurs, il affirme que son parti soutient Félix-Antoine Tshisekedi dans les efforts de pacifier l'est de la RDC. Roms Ngwapichi, au micro de Paul Matendo Mayamba.
Le chef de l'État a investi par son ordonnance, après les entraînants par l'Assemblée nationale, les membres de la CENI, désignés par leurs composantes respectives, bien sûr. Et nous les remercions pour ce sens de responsabilité. Je pense que le cap a été déjà lancé par le chef de l'État, par cette ordonnance. Et nous nous préparons en conséquence. Les autorités du parti sont déterminées dans la conduite de ce parti pour son triomphe aux échéances politiques à venir. nous avons réitéré notre soutien indéfectible par rapport à son engagement politique face à l'insécurité qui sévise à l'Est et aussi lui dire merci pour son engagement dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19 et autres antivaleurs, notamment la corruption.
Et puis cette matinée politique hier à Kinshasa du parti Union pour la Nation Congolaise, UNC de Vital Kamerhe, après la présentation des différents cadres par le secrétaire général Billy Kambale, les militants venus nombreux ont réclamé la libération de leur leader Vital Kamerhe, encore en prison. Écoutez plutôt Michel Agou, coordonnateur en charge de la mobilisation pour la ville de Kinshasa. Il est au micro de Paul Matendo.
Je crois que le secrétaire général a aussi dit que nous ne sommes pas aujourd'hui arrivés ici pour parler politique. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la restructuration de notre parti. Et là, le secrétaire général a pu présenter quelques cadres pour réellement démontrer cette volonté de pouvoir rebooster le parti face effectivement aux enjeux futurs.
Par rapport aux enjeux, désignation des animateurs de la CENI.
Le bureau politique va se prononcer. Le bureau politique, c'est l'organe attitré pour pouvoir parler de ce qui concerne la position de l'INC quant aux enjeux futurs.
À propos de Vital Kamerhe,
tout ce que nous voulons, que notre président soit libéré, c'est tout.
Province du Maniema, les enseignants des territoires de Kibombo et Kailo se disent victimes à nouveau du retard de paiement. Selon le président de l'intersyndicale des enseignants de l'EPST Kibombo 1 et 2, pendant qu'ils réclament leur salaire du mois de septembre, leurs collègues d'autres territoires commencent à toucher le mois d'octobre. Jonathan Edongo demande au gouvernement central de réagir, étant donné, dit-il, que le problème se trouverait selon lui au niveau de la banque. Le président de l'intersyndicale des enseignants de l'EPST Kibombo 1 et 2 explique au téléphone de Florence Kizalunga.
Sont déjà prévus dans la province du Maniema, sauf le territoire de Kibombo et Kailo. Depuis le 17 septembre, à qui on a touché le salaire. Mais nous, jusqu'à présent, on n'a rien touché qu'au mois de septembre. On demande, la Caritas nous dit que c'est un problème du FOD et non même du gouvernement. Raison pour laquelle nous montons au créneau pour dire au gouvernement central, à travers la radio de Capi, nous sommes victimes à tout moment par le retard de paiement. Deux mois aujourd'hui, nous sommes impayés, puisque jusque-là, on a touché le mois de pour d'autres enseignants qui sont bancarisés. Raison pour laquelle nous mettons venant pour dire que la Caritas nous amène cette fois-ci deux mois. Qu'elle n'ose pas nous amener un mois, puisque nous avons longtemps souffert, qu'elle patiente l'argent du mois d'octobre pour nous amener le deux mois. Les cas contraires, nous allons apprendre d'autres marchés pour contraindre à la réalité.
Santé. Dans la province du Kwilu, une maladie non encore identifiée décime les chèvres dans certains villages du territoire de Bagata. Cette maladie, caractérisée par la diarrhée et la faiblesse, finit par emporter la bête deux jours après. Conséquence, les chèvres sont devenues rares dans cette contrée et cela affecte l'économie de la population locale, affirme Jean Mitwinsi, un des notables du village Matamba. Il sollicite l'intervention des autorités compétentes afin d'envoyer des vétérinaires sur place. Le point avec Irène Boma.
Cette maladie se manifeste principalement par la diarrhée et l'asthénie physique générale, provoquant ainsi la mort brutale des bêtes, précisément des chèvres et des moutons. Les villages les plus touchés sont Mitien, Leter, Kimbimbi, Matamba et autres, tous dans les territoires de Bagata, a indiqué Jean Mitwinsi, un des notables du village Matamba. Il lance un cri d'alarme auprès des autorités compétentes qui peuvent faire venir des vétérinaires afin de stopper cette situation. Les chèvres meurent beaucoup. Si vous entrez ici, vous ne trouverez plus de chèvres. Cela nous inquiète. Que les vétérinaires viennent nous aider pour déterminer de quoi s'agit-il. Voyez maintenant comment nous sommes devenus. Nous sommes devenus pauvres, c'est malheureux. Joué à ce sujet, le ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage du Kwilu, Arthur Lako, rassure en ces termes.
Nous avions hier à stocker l'eau de médicaments à Bagata, même des vaccins aussi. Nous avions donné comme instruction d'intervenir à chaque chaque fois s'il y a le cas de pastéreros qui s'annonce. Donc ils doivent vite contacter l'inspecteur du territoire de pêche et élevage pour une intervention rapide.
Finalement, que cela fait déjà plus d'un mois que cette pastéreuse sévit dans cette partie du Kwilu. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité Afrique Monde.
Nous sommes au Libéria. Un chauffeur de taxi moto fait ambassadeur de l'intégrité par le président de la République pour son honnêteté. En effet, le 10 octobre dernier, dans le nord-est du Libéria, Emmanuel Touloé, taximen moto, est tombé sur un sac en plastique qui contenait 50 000 $. À la grande surprise de ses amis, le jeune homme de 19 ans a rendu l'argent à sa propriétaire, une femme d'affaires, après l'avoir entendu le lendemain lancer un message à la radio. Ce geste héroïque a été salué par le président George Weah, qui l'a fait ambassadeur de l'intégrité en lui offrant une récompense de 10 000 $. Le chef de l'État lui a promis également un salaire mensuel de 500 $ et une bourse d'études jusqu'au niveau master.
L'invité.
À l'occasion de la célébration de la Journée des Nations Unies, aujourd'hui 24 octobre, Radio Capi met en lumière un projet de développement exécuté conjointement par le PAM, la FAO et l'UNICEF. Ces trois agences du système des Nations Unies travaillent ensemble depuis 2018 pour lutter contre la malnutrition et renforcer la résilience des organisations paysannes à Minova, territoire de Calais, dans le sud Kivu. Ce projet est financé par la coopération allemande à travers la Banque allemande de développement, à hauteur de 50 millions d'euros pour une durée initiale de 5 ans, soit de 2018 à 2023. À Minova, Salif Djiré, chef de la FAO Sud Kivu, explique de fond en comble ce projet dans cet entretien avec Cynthia Bachizi Nabizana.
Salif Djiré, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Alors le projet porte sur quoi exactement?
Bon, comme l'a si bien dit, le projet quand même c'est un projet qui unit les trois agences des Nations Unies, à savoir le PAM, l'UNICEF et la FAO. Il y a différents volets où on a la productivité, assurer quand même une bonne productivité des productions agricoles et puis relever des défis de l'amélioration des moyens d'existence. Également assurer un accès aux services sociaux de base qui est un élément important et également un autre volet qui va dans le sens de l'amélioration de la cohésion et la construction de la paix.
Nous sommes ici dans le village de Boulenga, dans le groupement de Bouzi, et tout le long de la route, nous avons vu des cantonniers. Vous nous aviez dit que ce sont des bénéficiaires de ce projet de résilience. Comment ça se fait?
À travers une certaine activité que nous appelons FFE, qui veut dire travail pour de l'argent, c'est-à-dire que les producteurs ou les communautés elles-mêmes assistent à leur développement en contribuant par du travail qu'ils font, moyennant une certaine rémunération qu'on leur donne. Ça peut être des travaux pour l'aménagement, la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles, mais également des activités de reboisement, des activités également d'aménagement des marais agricoles.
Que vise ce projet? Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de l'impact même de ce projet de résilience?
Pour parler d'impact, c'est quand même un peu à long terme, mais déjà on a des éléments positifs qui sont visibles à l'ONU, parce que vous savez déjà, on a essayé quand même d'améliorer la production. Il y a plus de 500 hectares qui ont été aménagés par la FAO pour les marais qui ont été drainés. Ça, c'est très important pour nous. Nous avons aussi distribué plus de 30 000 outils aratoires aux producteurs et nous avons formé plus de 375 producteurs OP qui sont là pour travailler dans le cadre vraiment d'améliorer la productivité, mais également d'assurer une bonne continuité des activités champêtres tout en tenant compte de leurs besoins, mais également de l'accès au marché et améliorer également la nutrition au sein des communautés. Vous avez vu le balai des visiteurs. Quand vous voyez, il y a différents ambassadeurs qui ont commencé à venir. Vous voyez aujourd'hui, c'est la présence de son Altesse, la princesse Sarah. Et vous allez voir aussi également très prochainement la visite de KfW, qui est quand même la banque à travers laquelle la coopération allemande finance ce projet. C'est pour vous dire que tous les bailleurs qui ont eu à fouler le pied les zones du projet sont satisfaits. C'est déjà un élément très important.
Vous parlez d'activités champêtres, quoi. Est-ce que vous aménagez aussi des greniers communautaires ou des marchés communautaires?
Comme c'est un projet conjoint, le PAM assure vraiment la construction des greniers communautaires. On a des complexes, on a des abris d'unités de transformation, on a également des boutiques d'intrants qui permettent aux communautés d'être organisées d'abord en OP, organisation paysanne. Ensuite, elles vont être formées, transformées en union d'organisation paysanne, ensuite en coopérative. Ce qui permet vraiment de professionnaliser le secteur, mais également d'assurer une bonne continuité, une bonne coordination des activités agricoles en milieu rural.
Qu'est-ce qui a justifié la mise en œuvre de ce projet dans ce territoire de Kaléhé?
Bon, nous savons que ce territoire quand même, il est vaste, même si on sait que on est en train d'atteindre 15 000 bénéficiaires dans cette zone à travers ce projet, c'est 15 000 ménages qui vont être atteints parce que c'est une zone quand même assez vulnérable due quand même à des conflits. Vous avez vu récemment les déplacements des communautés dus au volcan au nord Kivu. Donc c'est des activités qui nous ont poussé à penser à contribuer au développement de cette communauté, mais également à renforcer leur résilience pour qu'ils puissent faire face aux défis que nous sommes en train de relever ensemble.
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Ce proverbe de Confucius résume assez bien le projet conjoint de résilience.
Je pourrais dire très bien, même dans la mesure où nous sommes dans un domaine de résilience qui nécessite quand même de la préparation, du fait qu'il y a beaucoup d'aléas autour de nous, beaucoup de difficultés d'accès aux différentes ressources, que ce soit à la terre, aux semences, aux intrants, mais également des difficultés d'organisation, d'accès au marché. Ce qui nous pousse à dire que cette résilience va être un combat de longue haleine où il faut vraiment apprendre soi-même à s'envoler.
Je vous remercie.
Merci également à vous.
Le chef de la FAO Sud Kivu était avec Cynthia Bachizi. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.